printemps du livre Grenoble 2025, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien de la librairie des étudiants lors du printemps du livre de Grenoble 2025. Je vous propose de faire un voyage à vélo aujourd'hui. Nous allons parcourir les planches du roman graphique d'Isabelle Del Real, Plouerrant à vélo de la Bretagne à Téhéran. C'est le titre de son ouvrage paru aux éditions Delcourt en juin 2024. L'histoire de ce roman graphique commence avec Isabelle. Âgée de 23 ans, sa vie se découpe au fil des voyages entre Paris et la Bretagne le week-end. Un jour qu'elle parle avec son frère Sam, devant les crêtes bretonnes, Isabelle rêve d'évasion. Mais pourquoi vivre un voyage lointain quand on peut faire un tour en vélo le long des côtes bretonnes? Impossible pour Isabelle qui n'aime pas, qui déteste le vélo. Quelque chose fait rêver Isabelle, c'est la cité antique de Babylone, en Irak actuel. Ses rêves sont une évasion pour elle, et quelle meilleure oreille que l'amiral auprès duquel elle travaille pour son stage de droit pour rêver davantage sur les mers. Après avoir traversé le massif des Pyrénées de l'ouest à l'est, Isabelle en est certaine. Il lui faut faire ce grand voyage dont elle rêve tant. Après avoir fait un inventaire pour partir avec le nécessaire, Isabelle part sur un vélo pour rejoindre Téhéran, la capitale de l'Irak. Mais alors Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé en vous pour partir soudainement aussi loin ?
Tout simplement l'envie de passer du temps dehors dans la montagne, l'envie d'être en chemin, de ne pas avoir de date de retour, de prendre mon temps. Voilà, ça c'est une envie qui existait depuis très longtemps. Donc
elle s'est exaucée par ce voyage.
Exactement.
Au fil donc de ce même voyage, vous allez dormir dans une tente en forêt avant de parfois être hébergé par des habitants. Vous avez dormi dehors pendant le couvre-feu, durant la période Covid. Quelles émotions vous traversaient durant cette période ?
Eh bien, énormément d'émotions. Et d'ailleurs, c'était sûrement ça, hein, ce que j'essayais de trouver, c'était de ressentir des choses fortes. Alors, quand on est tout seul dans une forêt, dans le noir, alors là, c'est sûr qu'on a des émotions. Essayez, vous verrez, c'est plein d'émotions qui nous traversent. Et après, effectivement, au bout d'un moment, il fallait prendre des douches quand même. Donc, parfois, il a fallu aller dans quelques campings ou se faire héberger chez des gens. Mais de manière générale, encore aujourd'hui, si je veux ressentir des émotions fortes, je prends mon vélo ou je marche longtemps et je choisis un endroit où dormir. Et ça, c'est fantastique.
Toujours un appel des terres, mais jamais de la mer.
Ah bah si, carrément si, toujours un appel de la mer.
Là,
toujours.
Je vais embêter la Bretonne, là.
Ah bah si, bah là, je reviens d'un long voyage en bateau à voile. Et c'est bien aussi, mais je pense qu'en mer, la montagne me manque bien plus que la mer ne me manque en montagne.
Donc maintenant que vous êtes ici à Grenoble, en Isère, c'est quoi le...
Ah bah là, c'est la tentation, ah ouais, le craving. Ah ouais, je les vois partout. Tout le monde me dit, alors il n'y a pas un grenoblois que j'ai rencontré qui ne m'ait pas dit une montagne au bout de chaque rue.
Oui, bah c'est ça.
et c'est vrai, et là du coup j'ai envie d'aller au bout de chaque rue. Mais là, c'est pas le moment. Là, on est dans un salon littéraire, donc il y a...
Après, peut-être.
Exactement. Il va falloir que je revienne.
Alors, durant ce fameux voyage entre la Bretagne et l'Iran, on vous voit lire le soir, avant de vous endormir. Votre roman graphique fait référence à de nombreux auteurs, que ce soit lorsque vous lisez les livres que vous avez emportés, ou alors les livres de vos amis durant les voyages, qui vont aussi ponctuer vos cases. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur votre lecture de Tolkien, Le Père du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous arriviez quand même à trouver le sommeil, après avoir superposé la mythologie de Tolkien à la mythologie peut-être imaginaire que vous aviez dans les forêts ?
Eh bien oui, ça. Alors pour plein de raisons, oui. La première, c'est que c'est rassurant de lire Tolkien, et je pense que c'est aussi ce qu'il dit. Lui, il fait des univers refuges, il dit. Et donc c'est très rassurant de lire et de relire une histoire qu'on connaît depuis qu'on est petit, même si la première fois qu'on l'a vu ou lu, on ne comprenait pas tous les tenants et les aboutissants. Donc d'une part, oui, c'est rassurant de lire Tolkien dans la forêt, parce que du coup on se dit, ah mais eux, ils vivent des choses tellement pires. Moi, au moins, je ne pense pas qu'il va y avoir des araignées géantes qui vont venir m'agresser dans mon sommeil. Et d'autre part, comme je lisais, et là c'est un grand mensonge de cette bande dessinée, c'est que j'ai dessiné des livres, mais en fait je lisais sur une liseuse. Liseuse, exactement, faute de place. Parce que voilà, à partir du moment où on se porte déjà une grosse trilogie comme Tolkien, on comprend que si on veut lire d'autres livres, il va falloir être économe en place. Donc j'avais une liseuse qui était rétro-éclairée avec une lumière chaude et qui est très, très douce. Et en fait, ça permet aussi d'être à l'intérieur de son sac de couchage complètement fermé et d'être en train de lire en bavant un peu sur son oreiller, en poussant juste du bout du doigt là, pour tourner les pages. C'est quand même très confortable, donc double confort la lecture le soir.
Donc vous allez rouler jusqu'en Espagne, jusqu'en Italie, en Albanie ou encore en Turquie, et j'en oublie encore d'autres. Votre voyage est ponctué de grandes joies, mais aussi de doutes, d'incertitudes, peut-être plus marqué quand on évolue en solitaire.
Absolument, mais quand on est en solitaire, tout est décuplé. Donc que ce soit les grandes joies, mais aussi les grands doutes. Et dans les 5 premiers mois de ce voyage qui a duré quasiment un an, il n'y a pas eu une journée dans laquelle je ne me suis pas demandé ce que je foutais là où j'étais. Et c'est à peu près normal, parce que c'est quand même... Quand on est jeune, on se compare à ses amis, aux gens qu'on connaît, aux modèles qu'on connaît. Et là, j'étais en train de... J'avais pas de repères. Je savais pas si j'étais en train de faire la bonne chose ou pas. Et j'avais pas beaucoup de modèles. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres. Parce qu'on se dit, ah bon, il y a d'autres personnes qui font des choses bizarres. Ou il y a d'autres personnes qui vivent des situations étonnantes. Puisque, en fait, un livre, c'est aussi... On rentre dans la psyché de quelqu'un, d'un auteur, d'un personnage. Donc ça permet d'avoir des points de comparaison. Et j'en avais très peu parce que j'étais très seule et que c'était les confinements et les couvre-feux. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, non, je crois que je pourrais pas faire autre chose que ce que je fais là, en ce moment en tout cas. Et je vois pas de meilleure façon de passer le temps que de justement essayer d'occuper l'espace et le temps. Parce que là, je suis à vélo et ça me convient et je suis en train d'avancer vers un objectif, parce que c'est ce déplacement aussi qui est addictif et qui nous emmène. Mais j'aurais pu faire plein d'autres choses et je savais que j'avais... cette opportunité devant moi, cette page blanche.
Alors ce qui est drôle, c'est que vous parlez du vélo, mais au début, on comprend assez rapidement que le vélo, c'était pas trop votre tasse de thé.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé que je suis entourée de gens assez chouettes qui m'ont fait considérer le voyage à vélo à force de me raconter des histoires, de me parler de vélo et de pas du tout être des gens qui essayent de m'endoctriner, mais bien juste en fait... c'était leur soft power, en fait. Ils parlaient du vélo, et puis moi, je leur disais, mais ça m'intéresse pas, tes histoires. Et ils continuaient d'en parler, et puis ils essayaient pas de me convaincre. Et puis au bout d'un moment, c'est moi qui suis allée vers eux, qui leur ai dit, bon, bah, comment je fais pour fabriquer un vélo, et aidez-moi. Et ils ont été adorables et vraiment charmants. Et je pense vraiment à mon ami Publio, que j'embrasse et que je remercie pour ça, encore une fois.
Quel a été le moteur dans ces moments de doute que vous avez pu traverser pour vous dire je continue, je n'abandonne pas, il faut que j'aille jusqu'à Téhéran?
Bah, y a le doute qui est fort, mais il y a aussi la curiosité qui est encore plus forte. Cette espèce de bonheur discret d'avoir personne pour nous surveiller, que personne ne sache ce qu'on est en train de faire de notre temps. Bon, ça, c'est délicieux, franchement, comme sensation. Et quand on est dans les montagnes et que personne ne sait où on est et ce qu'on fait, ben, on n'a pas de compte à rendre. Et ça, c'est... Moi, je pourrais faire ça constamment, quoi. C'est pas pareil d'être en vacances en ville ou d'être en vacances avec des gens qu'on connaît que d'être tout seul quelque part un peu caché.
Oui, parce que si la tentation d'avoir le téléphone.
Alors voilà, alors c'est très intéressant.
Complètement coupé.
C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que si tu pars sans internet, même si tu vas que à 200 km, t'es parti beaucoup plus loin que quelqu'un qui part avec son téléphone allumé en Thaïlande, quoi. C'est vraiment couper internet, c'est partir très 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 loin aujourd'hui. Je pense sincèrement que ça, c'est un énorme facteur.
Vous vous abandonnez à vivre le long des routes, vous ne pensez donc presque plus à rien, y compris même au beurre salé. Alors là, pour une Bretonne, il faut le faire quand même fort.
Ouais, c'est un gros travail.
Faut-il partir loin, finalement, pour savoir qui nous sommes ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, ce voyage, il m'a pas vraiment... J'ai pas découvert qui j'étais pendant ce voyage. Je savais très bien qui j'étais et ce que je voulais faire avant de partir. Par contre, c'est sûr qu'en un an, sur la route, j'ai vraiment pris confiance en moi. Mais enfin, c'est plutôt une bonne confiance en soi. C'est à partir du temps que j'ai eu pour réfléchir, pour me remémorer des souvenirs, que j'ai fini par me dire, bah, en fait, je suis contente de ce que j'ai dans la vie. Et que, par exemple, j'ai décidé aussi que je dessinais assez bien pour pouvoir raconter une bande dessinée. Ce qui n'est pas évident parce qu'en dessin, par exemple, j'ai des grosses lacunes et je n'ai pas fait d'école et je n'ai pas vraiment de talent naturel. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie et je prends du plaisir et je me suis dit, bon, bah, ça suffit. C'est pas une démarche qui est très française, en fait. Parce qu'en France, je pense que quand on se lance dans l'écriture ou dans le dessin, on a un peu ce sentiment qu'il faut être très talentueux et sinon ça sert à rien. Et en fait, moi, j'ai réussi pendant ce voyage, en tout cas, à me dire, bah non, je pense que je vais quand même réussir à raconter ce que je veux avec ce que j'ai.
Moi, je crois qu'elle est quand même très réussie, votre bande
dessinée. Ah bah c'est très gentil de dire ça. En tout cas, j'ai pris plaisir à l'écrire.
Alors justement, pendant ce voyage, pour nous rapporter ce très long voyage de la Bretagne jusqu'à l'Iran, comment vous faisiez pour vous souvenir de tout ça ? Parce que je suppose que couper l'internet, pas forcément de photos par le téléphone. Est-ce que vous aviez un carnet de voyage ? Est-ce que vous aviez des croquis ? Comment
alors,
vous avez pu restituer une fois chez vous ce voyage ?
Bah c'est très intéressant parce que j'ai pris très peu de notes. Pourtant, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, mais j'ai pris très peu de notes. Et là, je viens justement d'avoir cette conversation avec quelqu'un là tout à l'heure. Les notes que je prends, les plus importantes, c'est des brouillons d'emails que j'écris et que j'envoie pas. et des notes dans mon téléphone. En fait, je trouve que c'est hyper intime, les notes dans le téléphone. Tu vois, si je me mets dans Word et que j'essaye d'écrire un brouillon d'histoire, ça va pas très bien marcher. Je vais rester très en surface des choses, mais les notes dans le téléphone, c'est ce qui est le plus instinctif, je trouve. Alors, en tout cas, je trouve ça très intime. Et donc, j'avais quelques notes dans mon téléphone, de quelques phrases, quelques punchlines, en me disant « Ah, ça, c'est une bonne histoire, ça va faire un bon chapitre. » Ce que j'ai décidé... Ah, lapsus. J'ai décidé à peu près au milieu du voyage que je pensais que j'allais pouvoir en faire une histoire. Et à peu près à ce moment-là, mes parents sont venus me rendre visite à Istanbul et j'ai discuté avec eux. Je leur disais, vous savez, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce que quand je vais rentrer, je pense que je prendrai une année pour essayer de dessiner. Et ma mère m'a dit, ah, mais c'est une super idée. Enfin, ils m'ont pas dit ça comme ça, mais en tout cas, ils m'ont encouragé. Elle m'a dit, prends quelques photos. Des gens dans les rues, des postures, des tissus, des intérieurs de magasins, parce que ça, après, quand tu auras besoin d'une banque de données pour dessiner ou écrire, tu le retrouveras pas derrière. Tu peux retrouver toutes les routes, toutes les villes sur Google Earth aujourd'hui, mais certains détails comme ça, tu peux pas les retrouver. Donc j'ai une banque de données de photos absolument hideuses qui ne servent à rien, sinon qu'à me rappeler des choses que j'aurais pu vouloir dessiner. Et pourquoi je voulais dessiner ces choses-là? Parce que je voulais pas hiérarchiser entre les magnifiques bâtiments et les magnifiques endroits et la nature superbe, et puis les moments de la vie quotidienne. C'était vraiment ce dont je voulais rendre compte. Voilà.
Donc je suppose que l'épisode où vous faites référence justement à vos parents qui vous parlent de ce système-là, vous parlez à un moment d'un livre à dessin que vous projetez de faire, c'est donc celui-là.
Et bah oui, c'est ça, mais en fait je savais pas du tout que j'allais faire une bande dessinée. Moi je rêvais de faire une bande dessinée, mais comme on rêve de quelque chose d'inatteignable.
Et alors quel était le déclic?
Et bah le déclic, c'est un jour je me suis retrouvée pendant toute une journée à Dubrovnik à ne pas du tout visiter Dubrovnik parce que c'était blindé de touristes. Je me suis retrouvée à un café à juste faire un grand dessin. Et quand j'ai fini mon dessin, j'ai été contente, ce qui m'arrive jamais quand je termine un dessin. Déjà parce que je fais très peu de dessins et parce que je suis rarement contente de ce que je dessine. Et là j'ai changé d'avis. En fait, je me suis dit non, finalement ça suffit. Je pense qu'avec ce niveau de dessin là, je vais pouvoir rajouter des petits textes ou quelques dessins et essayer de transmettre cette émotion d'être sur la route. Puis c'est après, je me suis dit, finalement, je vais faire une longue bande dessinée fleuve de 600 pages, que à l'aquarelle et sans texte. Puis j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais faire. Je me suis rendu compte que non, pas du tout, que j'avais envie d'écrire beaucoup de textes et que l'aquarelle, ça prendrait trop de temps. Et du coup, je me suis dit, le noir et blanc, très bien. Et c'est comme ça que c'est venu, vraiment petit à petit.
Donc, au niveau du dessin, est-ce que c'était des planches physiques sur du papier ou est-ce que c'était numérique?
Et au niveau du dessin, j'ai acheté des blocs basiques A4 d'un papier assez cheap et j'avais des vieux crayons à encre que j'avais récupéré de ma mère et qui faisaient que de se boucher. C'était très agréable. Et j'ai fait j'ai pas fait de brouillon. J'ai fait, il y a peut-être 230 ou 240 planches dans cette BD, j'ai dessiné que 230 ou 240 planches dans ma vie. Et je me forçais à faire deux planches par jour. Alors il y a des jours où je craquais complètement et je pleurais dans mon lit. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais pleuré dans mon lit. Mais il y a des jours où je restais dans mon lit à regarder des séries par contre, ce qui est quasiment l'équivalent. Et en général, je me tenais à faire deux planches par jour. Avant de commencer le dessin, parce que ça a duré 6 mois à peu près, les 6 mois où j'ai dessiné deux planches par jour là, j'ai passé 4 mois extraordinaires à m'entraîner à écrire. Donc là, je regardais des séries, j'allais genre dans des librairies, je lisais des livres et tout. Et pendant 4 mois, j'ai fait que ça. Et c'était incroyable. Et j'ai quasiment rien écrit pendant ces 4 mois-là. Mais une fois que je me suis mis à dessiner, je savais exactement ce que je voulais faire. Et tout le scénario, je l'ai écrit sur des post-it.
Très minimal à chaque fois, des notes, de voyage,
figure-toi
des post-it.
Que je suis une grande fan. J'ai découvert que derrière les livres et les films, en fait, des gens écrivaient. Mais j'ai découvert ça très tardivement. J'ai découvert ça, je pense, quand je suis partie sur la route. Enfin, je l'ai toujours su, mais j'avais jamais vraiment capté. Du coup, je me suis dit, mais si ces gens font ça, mais il y a sûrement des gens qui en parlent. Et j'ai commencé à chercher des vieilles compiles YouTube d'auteurs ou d'écrivains qui parlaient de leur méthode d'écriture. Il y en a une que j'admire particulièrement, c'est Phoebe Waller-Bridge, qui a écrit Fleabag, une série. Et il y a quelqu'un qui a fait une compile de ses conseils d'écriture, parce qu'elle, elle a jamais donné une liste de ses conseils d'écriture, mais il y a des gens qui ont sorti des morceaux d'interview où elle dit qu'en gros, elle écrit quasiment que sur post-it et comme ça, elle peut les foutre les uns à la suite des autres. Et puis se dire, non, là, ça marche mieux là. J'étais là en mode, excellent, je vais tout faire comme elle. Donc j'ai fait des post-it où j'écrivais tous ses conseils et je les ai mis sur mon mur et voilà, je suis fan.
Votre histoire, votre trajet, ce voyage, c'est aussi des rencontres, des amitiés solides qui naissent le long des routes. Ces personnes, est-ce qu'elles ont lu Plouhéran?
Ah oui, elles ont lu Plouhéran.
Quels sont leurs retours?
J'espère que ça les rend contents d'avoir des souvenirs de voyage. Après, ce qui est chaud, c'est que un voyage, c'est on le vit. Et puis après, c'est comment on s'en souvient. Donc j'espère que j'influencerai pas la façon qu'ils ont de s'en souvenir de manière négative, en tout cas. Je sais qu'un de mes meilleurs amis, Louis, qui a lu cette BD aussi et qui est un des personnages principaux de la BD, à qui j'ai demandé, mais jamais vraiment directement, s'il était d'accord pour être un personnage, en fait. Je lui ai plus dit, est-ce que tu es d'accord pour être ce type de personnage, mais pas directement est-ce que t'es d'accord pour être un personnage ? Il m'a dit que sa mère avait lu la BD et qu'elle lui avait dit « je t'ai pas élevé comme ça ». Et parce que je l'ai un peu caricaturé peut-être, mais pour moi, beaucoup de gens m'ont demandé si c'était une vraie personne, Louis, s'il existait vraiment, si je continuais de le voir. Et je pense que beaucoup de personnes ont été touchées par la description que je fais de lui. Donc ça, c'est bien parce que c'est quelqu'un d'incroyable.
C'est un récit de voyage du coup un peu romancé. C'est pas
non, tout est vrai, tout est vrai. Vraiment quasiment à la phrase.
Vous avez juste grossi le trait sur les personnages.
Non, mais certains personnages, par exemple, si vous voulez pas se ressembler physiquement, j'étais capable de changer ou leur genre ou leur tête, mais c'est arrivé que pour deux personnages et sinon tout est assez fidèle à la réalité. Enfin, fidèle dans le sens à comment moi je me souviens des choses, mais assez fidèle, je pense.
Vous l'avez beaucoup admiré durant ce voyage. Vous nous offrez aussi de très belles planches dessus et elle fait aussi partie de la première de couverture. Qu'est-ce qu'elle vous inspire la nuit ?
Elle m'inspire quasiment tout. La nuit et le déplacement m'inspirent quasiment tout. Je trouve que une des choses vers lesquelles je tends, c'est disparaître. Disparaître pas du tout comme une pulsion suicidaire, hein, mais plutôt de se cacher. En fait, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, se cacher, pas être surveillé et pouvoir faire complètement ce qu'on veut et un gros sentiment de liberté. Et ce que j'ai adoré dans le fait de partir en plein hiver, c'est que la nuit dure très longtemps et elle est très protectrice. Alors après, il y a des combinaisons, par exemple nuit, forêt, brume, qui sont flippantes. Mais la nuit en tant que telle, pour moi, c'est vraiment un endroit où je me fonds et où je me sens vraiment à l'ombre de quelque chose et protégée par quelque chose. Donc, même si c'est aussi des moments qui peuvent être angoissants, dans certains, parce que vraiment on attend le soleil parfois avec impatience, pour moi la nuit, c'est la principale source d'inspiration.
L'énergie vagabonde, c'est la traversée de l'éphémère, perpétuellement renouvelée. L'énergie vagabonde consiste à faire moisson d'idées dans les collines inspirées. Un jour, les notes deviennent un livre. Ça, c'est une formule de Sylvain Tesson pour parler de ce qu'il ressent durant ses voyages. Qu'est-ce que vous y rajouteriez ?
Sur l'énergie vagabonde, je pense que c'est un peu une addiction, en fait, aussi. Parce que tout le monde nous dit « Ah, bravo d'avoir fait ce que vous avez fait, bravo, bravo », mais moi, je ne me voyais pas faire autrement. C'est un peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure, tout le monde me félicite d'être parti en vacances. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je me sentais très tirée. Enfin, en tout cas, je me suis jamais forcée, quoi. Donc, c'était beaucoup de plaisir.
Est-ce que votre voyage, ce voyage-là particulièrement, c'est votre odyssée ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est des longues vacances, mais je pense que je reviens d'une odyssée là actuellement, donc il y a une différence.
La grande inquiétude, c'est un peu ce qui m'anime. Inquiète de ne pas avoir assez vu, inquiète de ne pas avoir assez lu. Là, je viens de vous citer. Est-ce que cette grande inquiétude est toujours présente avec vous ?
Beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Mais effectivement, quand je reprends la grande inquiétude, je reprends la traduction d'André Markowitz de L'Idiot de Dostoïevski. Et j'avais vraiment trouvé que ça correspondait à ce que j'avais ressenti. J'étais très, très pressée quand je suis partie. J'étais pressée de voir beaucoup de choses. Alors après, je suis partie en prenant mon temps, en me posant et tout. J'ai pris un an pour aller à Téhéran quand on peut y aller en 4 mois à vélo. Mais j'avais quand même cette inquiétude de ne pas assez lire, de ne pas assez faire, de ne pas assez voir. Et aujourd'hui, je me trouve beaucoup plus apaisée. Mais ça, je pense que c'est juste vieillir. Hein.
Alors, est-ce que vous croyez que cette urgence-là, c'est dû à la jeunesse ?
Non, oui. Je pense que c'est pas que la jeunesse. Je pense qu'on peut l'avoir à tous les moments de sa vie. Mais c'est dû peut-être à... Ah, je sais pas. Peut-être à pas avoir trouvé exactement ce que je voulais faire dans la vie. Ouais, je pense que c'est ça. Et maintenant, je sais un peu mieux.
Quel est le livre que vous lisez actuellement ?
Là, actuellement, qu'est-ce que je suis en train de lire ? Je viens de terminer un livre qui s'appelle The Safe Keep de Yael van der Wouden. Et je vais en commencer un nouveau, mais je n'ai pas encore décidé lequel.
À suivre alors.
Voilà.
Plou errant, à vélo de la Bretagne à l'Iran, c'est le titre de votre roman graphique publié aux éditions Delcourt. Merci Isabelle Delréal.
Merci beaucoup.
Merci d'être venue à ce micro pour partager ensemble votre ouvrage. Amis auditeurs et auditrices, je vous donne bien sûr rendez-vous mercredi pour découvrir le prochain entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble. L'entretien qui sera réalisé avec Judith Pérignon. La capsule auditive de notre entretien du jour est à retrouver sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite une belle journée, comme aujourd'hui, et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.